Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme souvent, l'épître de saint Paul d'aujourd'hui n'aura sans doute pas vraiment retenu votre attention. Je crois que vous l'avez écouté. J'avoue que si je n'avais pas eu à commenter cette épître, sans doute serait-elle passée sans que j'y prête garde. Donc sans doute l'avez-vous vous-même écouté comme on avale l'entrée d'un pas, c'est-à-dire distraitement, en attendant qu'on serve enfin le plat de résistance, c'est-à-dire l'évangile. D'autant qu'aujourd'hui, plat de résistance, il y a, puisqu'il est question d'un repas, et d'un repas qui nourrit 5000 personnes. Ce récit évangélique est massif, c'est un des miracles les plus impressionnants du Seigneur Jésus, donc on peut très bien comprendre que, par rapport à ce récit-là, l'Épître ne pèse que peu de poids. Mais à dire vrai, et sans vouloir offenser notre Seigneur, sans vouloir relativiser le poids éminent de l'Évangile par rapport aux lettres de saint Paul, il faut quand même qu'aujourd'hui, je vous dise que ce qui doit attirer notre attention, eh bien, c'est d'abord l'Épître. Cette Épître aux Galates, pourquoi? Parce que d'abord, on y trouve le leitmotiv de la messe d'aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui la messe de Mi-Carême, si l'on veut, la messe de l'étaré. Et ce l'étaré, ce fameux kaéré en grec dont je vous ai déjà parlé à l'envi au cours du temps de Noël, ce fameux réjouis-toi, voilà, que le ciel adresse à la Jérusalem, à la fille de Sion, de l'Écriture, et on le trouve dans l'Épître, on ne le trouve pas dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est pourquoi il me semble important de focaliser notre attention sur l'Épître. Le deuxième motif plus profond pour lequel je voudrais parler un peu de cette Épître plutôt que de l'Évangile, c'est que dans cette Épître est synthétisée l'économie divine. Et la succession des deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, ce qu'il faut penser de la loi, de la Torah, et ce qu'il faut penser de cette nouvelle logique insufflée par le Seigneur Jésus, c'est-à-dire de la loi nouvelle. Il faut être clair, le propos de saint Paul, qui est relaté ici, dans l'Épître aux Galates, est un véritable bâton de dynamite. Je crois que nous sondons assez peu souvent le contexte dans lequel ont pu être écrits ces différents livres du Nouveau Testament. L'Épître aux Galates, croyez-moi, a fait grand bruit. Et les foudres des Juifs n'ont pas tardé à tomber sur la tête de l'apôtre saint Paul après qu'il ait commis cette lettre. De quoi s'agit-il? Ces chers Galates, qu'il avait amenés au Christ peu de temps auparavant, et qu'il avait laissé à leur propre sort, puisqu'il fallait qu'il aille de par le monde évangéliser encore d'autres païens, ces chers Galates, donc, laissés à eux-mêmes, tombent entre les pattes de chrétiens judaïsants. Et ces chrétiens judaïsants, vous le savez, considèrent que le baptême ne suffit pas pour être sauvé, l'adhésion dans la foi au Seigneur Jésus-Christ ne suffit pas non plus, il faut en plus observer dans ses moindres détails la loi de Moïse. En gros, il s'agit d'une coexistence entre la loi ancienne et la loi nouvelle. Quand saint Paul, nous le savons, de observant de la loi par excellence qu'il était auparavant, depuis l'illumination du chemin de Damas, a compris qu'il fallait totalement abandonner la Torah pour ne plus adhérer qu'à la personne de Jésus-Christ. Alors, la polémique ne fait pas qu'affleurer dans cette épître aux Galates, particulièrement dans l'écrit d'aujourd'hui, elle ne fait pas qu'affleurer, elle y éclate, avec son flot d'affirmations aiguisées comme des carreaux d'arbalète, comme saint Paul sait très bien en fourbir. L'objectif de saint Paul est très clair, il veut régler son compte, une bonne fois pour toutes, à tous ces judaïsants qui empêchent le travail que lui-même fournit lorsqu'il se rend auprès des païens. Ces judaïsants qui font croire aux païens qu'il leur faut d'abord devenir, en gros, devenir juif avant de devenir chrétien. C'est une thèse qui a été tenue il y a encore assez peu de temps, voyez-vous, par un cardinal archevêque de Paris, je ne citerai pas, qui venait du judaïsme. Le cardinal Lustiger, peut-être avez-vous lu son livre La Promesse, était dans cette espèce d'optique judaïsante, considérant, son livre par ailleurs offre beaucoup d'intérêt, c'est clair, et c'est une théologie très fine que nous trouvons là, mais fort de ses racines juives, il semble, à peine, de manière à peine voilée, affirmer que pour être vraiment chrétien, il faut d'abord être passé par le judaïsme. Qu'aurait dit saint Paul, sans doute, les choses se seraient mal passées entre le défunt archevêque de Paris et l'apôtre des gentils. Voilà, ça c'était pour la petite pique d'occasion. Et puisqu'il n'a pas encore eu gain de cause, saint Paul, auprès de ses confrères apôtres, puisque la première assemblée, le premier concile de Jérusalem n'a pas encore eu lieu, au cours duquel fut voté l'abandon des observances juives. Comme saint Paul n'a pas encore eu gain de cause, C'est comme un avocat qui le plaide ici. Il n'est pas encore sûr d'avoir gagné. Mais un avocat qui a le feu qu'on connaît et qui ratiboise littéralement ses adversaires. Il parle de ses faux frères, il parle de manière à peine voilée là aussi, de Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Donc nous savons que eux étaient partisans, et singulièrement Saint-Jacques, du maintien des observances juives. Eh bien, Saint-Paul ratiboise tout ce beau monde, se réclamant de la même légitimité qu'eux, en disant que comme eux, il est apôtre, pharisien de la première heure, issu de la meilleure race juive, autrement dit, vous, les petits pêcheurs du lac de Tibériade, voilà, retournez à votre bac à sable, moi je viens de la haute, et le Seigneur Jésus m'est apparu, était-ce en mon corps, était-ce sans mon corps, bref, je ne l'ai peut-être pas fréquenté 3 ans comme vous, mais croyez-moi, je l'ai bien vu, il m'a parlé, et il m'a dit ce qu'il fallait faire. Voilà donc Saint Paul qui, enflammé, parle de la loi et parle de ce qu'on doit en faire lorsqu'on est chrétien. Il renverse totalement la perspective, alors pas seulement des judaïsants, mais des juifs. Il renverse la perspective parce que vous savez, traditionnellement, dans les deux figures d'Ismaël, ce fils que Abraham a eu avec la servante Agar, parce qu'il avait mal compris la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu lui a promis une postérité, sa vieille femme stérile ne peut pas lui en donner, il va, conformément aux lois païennes de l'époque, il est issu du paganisme, encore fraîchement émoulu de ce paganisme, il va voir son esclave. La loi païenne le permettait. Et il obtient le petit Ismaël. C'est ensuite la rencontre de Dieu lui-même, à la tente de la rencontre, avec ces 3 personnages mystérieux qui sont en fait une préfiguration de la Trinité, et qui disent à Abraham qu'il a du mal comprendre, qu'il fallait qu'il retourne auprès de sa femme légitime, Sarai, qui, toute inféconde qu'elle était, allait lui susciter une postérité, parce que Dieu allait opérer un miracle. 1 an plus tard, dans 1 an nous reviendrons, et tu auras un fils, le fils de la promesse. Alors dans ce fils de la promesse, ce fils supérieur, qu'est Isaac, pourquoi supérieur? Parce qu'il est le fils de la femme légitime, Sarah, parce qu'il est le fils enfanté par miracle, parce qu'il est le fils que Dieu a concédé au vieil Abraham. Les Juifs se sont toujours reconnus, évidemment, dans cette figure d'Isaac, et se réclament de la descendance d'Isaac. Ils voient dans l'autre fils, Ismaël, le fils de la servante, le fils qui est né d'un malentendu, si l'on veut, parce que Abraham a d'abord mal compris ce que son Dieu lui demandait. Ils ont vu dans Ismaël le reste des nations, et toujours méprisé les fils d'Ismaël. Et voilà que saint Paul a le toupet de retourner, c'est une révolution au sens strict, il retourne totalement la perspective. Pour lui, le fils de l'esclave, c'est-à-dire Ismaël, les descendants d'Ismaël, c'est le peuple juif, c'est la Jérusalem terrestre qui est empêtrée dans l'esclavage, et il voit dans les fils d'Isaac, le fils de la promesse, il voit l'Église. L'Église à leur naissance, les chrétiens. Imaginez le tollé qu'a dû provoquer ce genre d'exclamation dans les places publiques, à la synagogue, parce que Saint Paul avait le culot d'aller défendre ça à la synagogue. Imaginez un peu les pierres dont ont dû se saisir les juifs pour lapider cette espèce de blasphémateur. Saint Paul, c'est comme ça qu'il faut lire les Écritures. Remettre dans le contexte, et j'aime autant vous dire que vous trouverez moins soporifique la lecture des écrits sacrés si vous acceptez de vous replonger dans la perspective d'il y a 2000 ans. Imaginez-vous cette espèce d'ambiance incroyable dans laquelle Saint Paul se dresse. C'est une sorte de nouveau crucifix-le. Et il répond de la vérité avec une audace et une virulence, il faut bien le dire, qui est toute divine, bien sûr. Et que nous dit-il donc d'Ismaël? Pourquoi fait-il du peuple juif un peuple esclave? Pourquoi fait-il du peuple juif le descendant d'Ismaël? Eh bien, les juifs sont esclaves, pourquoi? Parce qu'ils sont écrasés sous une somme incroyable de prescriptions juridiques. Il faut vous dire qu'à l'époque de saint Paul, les juifs en sont venus à vénérer presque plus que leur Dieu saint, la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres, le Pentateuque, les 5 premiers livres sacrés, c'est la révélation. Initialement, la Torah était conçue comme le Dieu qui venait à son peuple et qui demandait en retour l'application d'un certain nombre d'observances cultuelles notamment, mais c'était d'abord un livre, une histoire d'amour réciproque. Et petit à petit, les Juifs, notamment à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, à partir de la déportation en Babylone, le judaïsme a pris un tout nouveau. Et on a commencé à ne considérer dans la Torah plus que les préceptes rituels, juridiques, et à transformer petit à petit la religion juive en une sorte de carcan juridique. Pour être sauvé, il ne s'agissait plus tant d'aimer Dieu et que Dieu nous le rende, et d'appliquer quelques règles, parce que tout de même, quand on aime quelqu'un, on fait ce qu'il veut, voyez. Là, la perspective est tout autre depuis l'exil. Il s'agit, pour être juste, aux yeux de Dieu, pour être sauvé, d'appliquer dans les moindres détails des prescriptions juridiques. Il y en a 600 et quelques qui trottent sans cesse dans la tête des pharisiens notamment, qui se tenaient pour justes, encore une fois, pour purs aux yeux de Dieu, parce qu'ils avaient appliqué tous ces préceptes. Saint Paul vient leur dire qu'il s'agit là d'une sorte de carreau, d'une sorte de carcan qui les maintient en esclavage. Là encore, imaginez le tollé de la caste pharisienne dont il est issu. Lui qui hier ne jurait que par la Torah, voilà qu'aujourd'hui il la remet en cause. Il n'en remet pas en cause toute la substance. Le cœur de la Torah, nous le savons, c'est le décalogue. Et le cœur du décalogue, nous le savons, c'est le double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Ça, ce cœur de la Torah, cette colonne vertébrale, jamais saint Paul ne la remettra en cause. Il parle des lois saintes. Les lois saintes, ce sont les 10 commandements. Donc jamais saint Paul ne dira que ces lois sont caduques. En revanche, c'est tout le fratras qui a été accumulé au fil des siècles par les scribes et les légistes que saint Paul remet en cause, expliquant qu'il s'agit là d'une sorte de tutelle écrasante dans laquelle se maintient lui-même le judaïsme dans un mouvement masochiste. En gros, c'est ce que dit saint Paul. Vous voyez, il remet en cause également le racisme d'Israël, lui qui est issu de la meilleure souche israélite, descendant Benjamin, pardon, des deux fils préférés d'Israël, et de sa maman, et de son épouse. Vous voyez qu'il remet en cause le racisme, en disant que là encore, il s'agit d'un garrot, d'un boulot que Dieu ne veut pas voir survivre. Il ouvre aux nations, il ouvre à toutes les races de la terre la possibilité du salut quand Israël, confortablement installé dans le temple et dans la synagogue, ne voulait surtout pas trop faire entrer les païens. Seuls les descendants d'Abraham avaient droit au salut. C'était la perspective au temps de saint Paul, voyez. Et là encore, esclavage. Vous maintenez, non seulement vous êtes esclaves vous-même de la Torah, mais vous maintenez les peuples de la terre dans un esclavage en ne leur permettant pas d'accéder au salut. Vous voyez, cette espèce de croyance présomptueuse aussi que saint Paul dénonce. Parce que je vais appliquer telle et telle petite règle, alors j'aurai le salut, quelles que soient mes dispositions de cœur, mes dispositions intérieures. Saint Paul, à l'image de tous les prophètes des derniers siècles avant Jésus-Christ, s'enflamme. Mais ce qui compte, c'est ton cœur, ce que ton Dieu veut pour te donner le salut. Fais pas que tu observes quelques petites génuflexions, quelques petits baisements d'autel, je ne sais quoi. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Voilà ce que rappelle saint Paul, et voilà l'esclavage qu'il dénonce en Israël. À l'inverse, il voit dans Isaac et la descendance d'Isaac les chrétiens, les hommes libres par excellence. Pourquoi des hommes libres? Parce que eux ne sont pas attachés à la loi qui écrase, qui opprime, mais cette loi qui finalement n'offre absolument pas de salut. Ils ne sont attachés qu'à la personne de Jésus-Christ. Cette personne dont saint Paul est tombé profondément amoureux lorsqu'il l'a vu sur le chemin de Damas. Il a compris là que ce qu'il devait vénérer, ce n'était pas une loi, la Torah, mais c'était une personne, la nouvelle loi, Jésus-Christ. Saint Thomas d'Aquin définit la loi nouvelle comme la grâce qui nous est donnée par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez qu'on n'a rien là d'un code de loi. Il ne s'agit pas d'une loi écrite, d'une loi positive, d'une loi qu'il faudrait être scrupuleusement appliquée, pas du tout. C'est une loi gravée dans le cœur, la grâce donnée par Jésus-Christ. Et pourquoi cela rend-il libre? Parce que cette grâce est rien moins qu'une participation de la vie même de Jésus-Christ. Par la loi nouvelle qu'est Jésus-Christ et auquel nous communions, par notamment l'Eucharistie, mais par tous les autres sacrements, nous sommes habités par Jésus-Christ. Et alors nous acquérons dans notre existence, dans notre agir, dans notre pensée, une souplesse, une liberté intérieure qui est aux antipodes de cette raideur de la Torah qui, encore une fois, écrasait le peuple élu qui ont été réduits à un état de servitude. Voilà, mes frères, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est cette perspective que présente saint Paul de manière enflammée, paternelle, parce qu'il aime ses fils de Galatie, mais en même temps vengeresse, parce qu'il voit chez les Juifs cette volonté toujours d'écraser, et chez les judaïsants mal convertis en réalité de Jérusalem, il craint pour la pérennité de la Nouvelle Alliance. Il craint que nous ne sombrions à nouveau dans un légalisme formel qui, il faut bien le reconnaître, mes frères, nous pend au nez. Parce que je crois que cette distinction entre l'homme libre et l'esclave, elle n'est pas tant une distinction entre nous les chrétiens et les autres, il ne faudrait pas retomber dans la même perspective que celle des juifs, complètement exclusive. Non, l'homme libre et l'esclave, il est en chacun de nous en réalité. Soit nous restons attachés à la Torah et nous en faisons une sorte de Dieu, soit, c'est ce qui se passait du temps des pharisiens, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu il n'y a pas très longtemps dans un livre, vous me direz tout comme ça, dans le Talmud, donc dans un commentaire qui était donné des Écritures, du temps de saint Paul, on lisait que, un commentaire du livre de la Genèse, on lisait que Dieu lui-même avait dû s'inspirer pour créer de la Torah. C'est-à-dire que la Torah était préexistante à Dieu, bien sûr, de toute éternité, avant même que Dieu soit, finalement, j'allais dire. Voilà que Dieu doit lui-même s'inspirer des préceptes qui gouvernent Israël. Vous voyez dans quel état se trouvait le peuple élu du temps de saint Paul. Alors voilà ce piège qui nous pend au nez, non pas de faire de la loi une sorte de Dieu, je crois que nous n'en sommes pas là, nous sommes trop gaulois pour pouvoir sombrer dans ce genre de travers, mais enfin, voilà, le piège de nous croire supérieurs aux autres, là, nous y tombons fréquemment. Le piège de croire qu'avec nos petits efforts, nous arriverons à gagner le ciel, là aussi, nous y tombons fréquemment. Je crois qu'il faut donc prendre de plein fouet les remarques que saint Paul accumule dans son épître. Et si vous voulez en savoir davantage, allez voir l'Épître aux Galates dans son intégralité, ou l'Épître aux Romains, qui est une reprise plus formelle de l'Épître aux Galates, et plus apaisée, il faut bien le dire. Donc si vous avez des problèmes cardiaques, plutôt que de lire les Galates, allez plutôt lire les Romains, c'est plus soft. Voilà. Eh bien, chers frères, voilà la raison pour laquelle nous devons nous réjouir. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous libérer de ce carcan légalisme. Et il est venu bien nous inviter à la haute mer. Alors n'ayons pas peur, profitons de ces quelques semaines qui nous séparent de Pâques pour apprendre à nager, voilà, sous la houlette du Saint-Esprit, et pour s'avancer en eau profonde. Ainsi nous serons de vrais chrétiens, et ainsi nous serons comblés de grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.